Bonjour et merci d'être fidèle au grand face-à-face. Tous les samedis, vos rendez-vous jusqu'à 13h, la semaine des humoristes d'Inter. Le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puisque nous sommes en plein tournoi de Roland-Garros, c'est une semaine tout juste avant le début en France de la Coupe du Monde féminine de football. Sport et féminisme en débat aujourd'hui. Le sport qui reste un défi pour tous ceux qui militent pour l'égalité homme-femme. La différence des corps et des sexes reste une évidence dans la pratique sportive. Et il suffit d'allumer sa télé ou de parler avec un prof d'EPS pour s'en apercevoir. Alors le sport est-il le seul lieu, excepté la maternité, qui renverrait immanquablement à la dualité homme-femme? C'est la question que se pose notre invitée. Elle est philosophe de la pensée féministe. Elle a beaucoup réfléchi à cette énigme par excellence qu'est pour elle le sport. Rendez-vous avec Geneviève Fraisse dans une petite demi-heure.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes sportifs l'un et l'autre, Natacha?
J'aimerais beaucoup.
Oui. Oui, Gilles, vous l'êtes.
Oui.
Sportif?
Oui.
Amateur de sport aussi, ça on l'a vu la semaine dernière, avec votre défense du féminisme et de la cause des femmes à Roland-Garros. On aura l'occasion d'en parler, de la compétition sportive et de la compétition politique, évidemment. Mais avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par François Audouin. Et une semaine évidemment dominée par les résultats des élections européennes. Compte rendu de Charline Vanhoenacker.
Bravo au parti qui remporte le scrutin, Europe Écologie Les Verts. Bah, premier parti chez les jeunes. Autre victoire, celle du parti animaliste, puisqu'avec plus de 2%, ils se hissent au même niveau que le parti communiste. Ce qui signifie que dans ce pays, les marmottes font le même score que les communistes. J'ai fait la Bristaturie Academy. Bravo à La République En Marche, qui partait avec un gros handicap, Nathalie Loiseau, qui malgré cela parvient à faire deuxième. Bravo aussi à la liste Les Républicains, menée par un stagiaire en observation, François-Xavier Benelami, qui en 4 mois, avec ses propos sur l'avortement et la fin de vie, réussit malgré tout à convaincre 8,4% des électeurs. C'est miraculeux. Félicitations à Rafou. Wouh, Raphaël Glucksmann et le PS. Ils les ont, les 5%. Pa, pa, pa. C'est totalement inespéré. Ils ont dû faire une de ces teufs et rentrer bourré au milieu de la nuit, non Léa? Donc ça y est, c'est bon. Rafou ira siéger 3 jours par semaine à Strasbourg. On pourra enfin aller boire des coups avec Léa le mercredi soir. Vous voyez, il y a plein de points positifs dans ces résultats et donc des tas de raisons de se réjouir, d'être optimiste, de croire en un monde meilleur.
Et le Rassemblement National?
Le ARN. Oh, ce sera bientôt un détail de l'histoire européenne, ça.
Les européennes, le Rassemblement National est donc arrivé en tête devant La République En Marche et Guillaume Meurice a passé sa soirée au QG de la REM avec les militants.
Soulagé de ne pas être autant déçu que prévu.
Comment ça se manifeste, d'être soulagé de ne pas être autant déçu que prévu?
Ben, t'as envie de chialer quand même un petit peu, mais bon, tu te retiens.
C'est-à-dire vous chialez à l'intérieur de vous-même?
Un petit peu.
Voilà, c'est très pratique pour s'hydrater de l'intérieur. Et ça se voit pas, on peut aller sur tous les plateaux télé, dire que tout va bien. Une vista politique qui n'est pas sans rappeler celle du capitaine du Costa Concordia. On peut même parler de plagiat à ce niveau-là. Autant dire qu'au championnat du monde de la remise en question, les chances de médaille sont pas dingues. Comment ils analysent le score du Rassemblement National?
Bon, ils cultivent les problèmes, les souffrances des gens, mais ça apporte aucune solution.
Est-ce que c'est pas Macron et sa politique qui créent les souffrances qui sont ensuite récupérées par le Rassemblement National dans les urnes?
C'est sûr qu'il a engagé pas mal de réformes importantes, donc ça perturbe la société, ça dérange les avantages acquis, etc. Donc,
est-ce que prendre aux pauvres pour donner aux riches, c'était la bonne idée?
N'oublions pas qu'on est un des pays où l'assistance et le support aux pauvres est le plus développé.
Mais, oui, mais c'est ça que les pauvres ne veulent pas comprendre, bordel. Ils crèvent dans un beau pays. Il faut leur dire, ils crèvent dans la rue, mais sur les Champs-Élysées, quand même, ça a de la gueule. On a des clochards qui ont de la chance, mais qui s'en rendent pas compte. Ça, c'est le drame français. On a des travailleurs qui font des burn-out, mais dans des entreprises qui marchent, bordel.
Dès lundi, réunion de crise chez les Républicains après l'échec aux européennes. Compte rendu des échanges entre Gérard Larcher et Laurent Wauquiez par Daniel Morin.
Hey, salut Gérard. Oh, bonjour Laurent. Bon, faut qu'on se ressaisisse, hein. Il y a les municipales dans un an. Oh, bah oui, je crois que la solution est simple. Faut apporter du changement. Démissionne, hein? T'as dit quoi? Oh, j'ai dit qu'il fallait apporter du changement. Non, non, je sais, mais après changement? Rien? J'ai rien dit d'autre, casse-toi. Mais là, t'as dit casse-toi, j'ai pas rêvé. Non, je t'assure, j'ai jamais rien dit de la sorte. Dégage. Non, mais je suis pas fou, je t'entends dire des trucs tout bas. Je pense que t'es surtout très fatigué, Laurent, pauvre naze. Repose-toi un peu, on va s'occuper de tout, on va te virer. Tu sais, tu peux nous faire confiance. T'es mort. Allez, respire un grand coup, fais-moi confiance.
Et puis dans les urnes, une autre défaite cette semaine, celle de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui ne sera donc pas maire de Barcelone. Sa dulcinée Susana était elle aussi déçue.
Ay, que dolor, señor de Barra, que dolor. Manuel est prisé, outragé, martyrisé. Que tristesse, que désolation. Manuel a lamentablement échoué. Nous vivons un terrible cataclysme. Hein? Dimanche soir, il a déclaré que les résultats sont loin, très loin de ses attentes. Et je ne te parle pas des miennes. En tout cas, je peux vous dire que depuis deux jours, il dort sur le canapé. Ay, je ne le reconnais plus. Louis, el tigre. Il s'est transformé en petit chaton dépressif. Mi gatito. Moi, Manuel, je ne sais plus comment lui remonter le moral. J'ai tout essayé. Même le score de Benoît Hamon aux Européennes, ça lui a pas décroché un sourire. Je suis désespérée. Manuel voulait tout refaire comme la République en marche, mais à Barcelone. Il voulait être l'ambassadeur de la disruption. Il voulait rebooter les process dans une stratégie win-win de sa campagne en pitchant B2B. Mais bon, les Espagnols, ils parlent anglais comme une vache française, alors bon. Il n'arrête pas de me dire « Jamais il ne t'abandonnerait !» Mais bon, la dernière fois qu'il a dit ça, c'était aux habitants d'Evry. Alors, en tout cas, moi, je ne retourne pas à Evry. Hein. Ça, non. L'amour est enfant de bohème, mais il y a des frontières que l'amour ne peut pas franchir. Hein. Celles de l'Essonne sont infranchissables en ce qui me concerne.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. À suivre dans le grand face-à-face, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Tout au long de cette campagne qu'on a démarrée nous très tôt, en septembre, on a senti un excellent accueil. Et je crois surtout que les instituts de sondage se sont plantés très largement pendant toute cette campagne. C'est probablement une campagne assez difficile pour eux à identifier, à voir les ressorts. Mais nous, on sentait qu'on était beaucoup plus haut que ça.
Yannick Jadot, lundi matin au micro de Nicolas Demorand sur notre antenne. Avant de parler des leçons que vous tirez l'un et l'autre des résultats des européennes, les sondages pointés du doigt depuis dimanche dernier, ils font partie des perdants des européennes. Ils n'auraient pas vu la participation en hausse, l'effondrement des Républicains. Et à écouter Yannick Jadot, évidemment, ils n'ont pas prévu non plus la percée des Verts. Gilles.
Toutes ces critiques sont parfaitement justifiées. Ils ont vu un certain nombre de choses. Ils ont vu, puisque c'était ça l'enjeu principal, ou c'est devenu l'enjeu principal du scrutin, l'ordre d'arrivée entre le Rassemblement National et La République En Marche. Ils avaient vu à peu près le score de La République En Marche, le score du Parti Socialiste. Certains d'entre eux, Ipsos notamment, avaient vu la dynamique d'Europe Écologie Libère, mais toutes ces critiques sont parfaitement justifiées.
Mais quand vous dites « ils », pourquoi on ne dit pas « nous », puisque vous avez conduit avec la Fondation Jean Jaurès, le CVPOF et Ipsos Theria une grande enquête sur les intentions de vote sur un échantillon de 10 000 personnes.
Mais parce que ce sont les instituts de sondage qui sont les opérateurs. Là, en l'occurrence, le CVPOF et Le Monde et la Fondation Jean Jaurès ne sont que les clients.
Natacha.
Je pense que c'est un faux procès. Et c'est un faux problème.
Fait au sondage.
Oui, dans le sens où ce que ça nous montre, c'est que l'électorat est devenu extrêmement volatile et qu'une campagne, nous le voyons tous dans les médias, une campagne désormais se joue dans la dernière semaine. C'est d'ailleurs assez...
Mais normalement, les sondages devraient pouvoir le prendre en compte.
Mais sauf qu'ils ne peuvent pas, puisque justement, vous avez un nombre croissant de gens qui se déterminent le jour du vote. Sur une élection comme celle-ci, qui est une élection qui, pour la plupart des citoyens, semble un peu lointaine, où l'intérêt est moins immédiat que pour une élection présidentielle. La question de savoir quelles sont les motivations du vote est cruciale. C'est-à-dire que on s'aperçoit que beaucoup de gens ont, au dernier moment, décidé d'y aller pour faire barrage. Alors, les uns pour faire barrage au Rassemblement National, les autres pour faire barrage à Emmanuel Macron. Et ils hésitaient, ils n'étaient pas motivés. Et à la fin, au dernier moment, ils se disent « Mais tout de même, je ne peux pas laisser ces gens-là en tête. » Et puis, vous avez ceux qui, ne sachant toujours pas pour qui ils allaient voter, se disent « Je vais envoyer un message. » Ce qui est classique dans des élections européennes. Et c'est pour ça que les Verts font souvent un très bon score. D'autant que là, en effet, il y avait une dynamique sur les questions écologique. Mais ça, on pouvait le sentir, mais il est impossible, à mon avis, pour des sondeurs, de savoir exactement quelle est l'ampleur de cette dynamique. Et je trouve que plutôt que de s'intéresser au thermomètre, il vaudrait peut-être mieux s'intéresser à ce que ça nous raconte de l'état politique du pays.
Alors, on va y venir, à l'état politique du pays, mais quand même encore un mot sur les sondages.
Ouais, je voudrais y revenir parce que, compte tenu de la place qu'occupent les sondages dans le débat public, c'est quand même utile de revenir, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a une première explication qui est assez simple, c'est que les élections européennes sont toujours des élections plus difficiles que les autres pour les instituts de sondage, parce que la participation est plus faible et donc chaque mouvement statistiquement est plus important, et parce que comme c'est un enjeu qui paraît secondaire pour les Français, la mobilité est plus forte. Après, la question c'est est-ce que...
La mobilité, c'est-à-dire les électeurs qui changent d'avis.
Et donc la question c'est est-ce que le cœur du problème ce sont les instituts qui ont, dont les techniques ont été défaillantes. Et ça, il va falloir qu'ils regardent et qu'ils regardent de près. Il est possible que pour une partie, l'explication se trouve là, notamment dans la surestimation des Républicains. Ou est-ce que, je le dis de manière un peu provocatrice, le cœur du problème, c'est le comportement électoral des Français? Le fait que, non seulement dans les deux
c'est
derniers...
C'est pas la faute des sondages, c'est la faute des Français.
Là, je dis ça.
C'est pas une question de faute, c'est un constat.
Non, bien sûr, je le dis autrement. Quand vous demandez aux Français à quel moment ils ont pris leur décision, que vous ajoutez ceux qui ont pris leur décision le samedi et le dimanche, donc dans le dernier week-end, donc après que les instituts ont arrêté leurs estimations, ça représente 23% des Français. Donc c'est absolument considérable.
Ah oui.
Chacun
oui,
en a fait l'expérience. Tous les auditeurs en ont fait l'expérience.
Un quart des électeurs.
Mais chacun a vu des amis, des proches qui disaient... On demandait le vendredi, le samedi, pour qui tu vas voter. Il dit, je ne sais pas encore si je vais voter, je ne sais pas encore pour qui. 23%. Ce qui est troublant, c'est que le mouvement se soit fait dans le... qu'il y a eu deux mouvements parallèles. C'est-à-dire, comment on explique ce que vous évoquez, la surestimation très importante des Républicains, la sous-estimation importante d'Europe Écologie Les Verts. Pour une raison très simple, vous avez eu deux mouvements. Le premier mouvement, c'est que les électeurs de François Fillon de 2017, donc qui étaient des électeurs républicains, 30% d'entre eux ont fini par voter pour la liste d'Emmanuel Macron. Et 30% des électeurs d'Emmanuel Macron de 2017 ont voté pour des candidats de gauche et pour des candidats écologiques. Et donc c'est ce double mouvement qui explique la baisse des uns, l'augmentation des autres. Après, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce double mouvement.
C'est ça. Ce qui me semble intéressant, c'est de parler... politique.
On y vient.
C'est-à-dire que
Natacha,
les Français ne sont pas irrationnels, ils sont face à un paysage politique qui est problématique, qui est éminemment problématique. D'autant plus que a été surjoué, et là on peut le dire, ça a été surjoué par le gouvernement, par Emmanuel Macron, et ça a été relayé ensuite, a été surjoué cette idée d'un vote utile, c'est-à-dire la transformation de ce scrutin en quelque chose de purement national et qui allait ressembler à un second tour d'élection présidentielle.
Ça, on va en parler.
Et c'est ça qui a polarisé, qui a radicalisé en partie ce scrutin. Et je pense que c'est ça le plus intéressant à discuter. C'est la façon dont, petit à petit, ce paysage politique est en train d'évoluer vers quelque chose qui, pour ma part, me semble profondément dangereux.
Les sondages ne se trompent jamais parce qu'ils n'ont pas de vocation à prédire. C'est une phrase de Laurence Parisot, la patronne de l'IFOP, ancienne patronne du MEDEF. Juste d'un mot, Gilles, avant de passer au fond et de parler proprement politique. Moi aussi, je vais me mettre à défendre les sondeurs. En l'occurrence, ils ont prévu l'essentiel, à savoir les grands mouvements de fond, les deux de tête. Ça, ils l'avaient prévu et plutôt bien prévu.
Ils l'avaient plutôt bien prévu. Ils avaient tous, pour le coup, mis le Rassemblement National en tête. Après, il ne faut jamais oublier que les sondages, c'est une science molle, c'est pas une science dure. Je vous en donne juste une illustration, parce qu'on a parlé de la surestimation des Républicains, de la sous-estimation d'Europe Écologie Les Verts. La troisième erreur, elle a porté sur le niveau de participation. Il y a eu 5 ou 6 points d'écart entre la participation qui était prévue par tous les instituts et la participation réelle. Comment font techniquement les instituts pour prévoir la participation? Ils posent une question très simple aux Français, qu'ils sondent, sur une échelle de 0.
Regarde la météo.
Sur une échelle de 0 à 10. 0, vous êtes sûr de pas aller voter. 10, vous êtes sûr d'aller voter. Où est-ce que vous vous situez? Et par expérience, ils ne retiennent pour estimer la participation que les Français qui disent 10. Je suis certain d'aller voter. Eh bien, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que des Français qui avaient répondu 9, un certain nombre d'entre eux sont allés voter. Eh bien oui, c'est une science humaine.
À suivre les leçons d'une élection.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir, il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale.
Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagnée.
Marine Le Pen et le Premier ministre Édouard Philippe, dimanche soir, on va rentrer dans le détail, mais en politique, on a le sentiment qu'il y a des gagnants, des perdants et des presque gagnant, je ne sais pas comment le formuler, Gilles.
Parce que comme toute élection, chacun voit midi à sa porte et on peut une même liste peut être à la fois gagnante et perdante. Vous prenez La République en marche et la déclaration du Premier ministre par rapport à l'objectif qu'ils s'étaient fixé et qu'ils avaient fixé à la campagne arrivée en tête, c'est un échec. Après, c'est dans le même temps aussi une victoire parce que La République En Marche est un pôle de stabilité. il maintient à peu près le score d'Emmanuel Macron de 2017, parce que en relatif, tout le reste à côté s'est effondré, et donc un même score peut-être pour chacun. Une victoire et une défaite.
Alors que très peu de choses séparent le Rassemblement National et La République En Marche. Le Rassemblement National a 22 eurodéputés et la REM 21. Natacha ?
Non mais nous le disions la semaine dernière, c'est aberrant de transformer une élection européenne en une course au premier ou au deuxième.
Oui.
Simplement, si Emmanuel Macron a choisi de le faire, parce que personne ne lui demandait d'affirmer qu'il fallait qu'il arrive en tête, il l'a fait. Pourquoi ? Parce que son but politique... c'est de continuer cette déflagration sur le paysage politique français qui consiste à détruire tout ce qui peut exister d'autre que lui et le Front National, le Rassemblement National, pardon, j'arrive pas à le faire.
Je pense que même chez eux, c'est un lapsus qu'ils font régulièrement.
Or, il a réussi. Il a réussi, c'est-à-dire que tout le reste s'était
fond. Il a réussi à détruire les Républicains.
Les Insoumis se sont détruits tout seuls, mais tout de même, ça participe de cette dynamique. Les Républicains étaient dans une position extrêmement compliquée. Nous l'avions évoqué ces dernières semaines, la question de la ligne libérale conservatrice. C'est-à-dire les électeurs qui se sentent profondément libéraux et qui veulent avant tout garantir cela avec sans doute un vote sociologique, un vote de classe, ils sont tous allés vers Emmanuel Macron. Et ceux qui veulent avant tout préserver une dimension identitaire, une dimension de conservation, ont voulu sanctionner Emmanuel Macron et donc ont choisi la liste qui sanctionnait Emmanuel Macron. Donc de ce point de vue-là, vous avez des dynamiques qui sont de plus en plus radicales au sens strict du terme, et qui se construisent contre. Et c'est cela qui me semble parfaitement dangereux, c'est que la motivation de beaucoup d'électeurs dans une élection européenne où pourtant tous les choix devraient être ouverts, c'était d'aller voter contre le Rassemblement National ou contre Emmanuel Macron. Quant aux électeurs de gauche qui avaient voté Macron en 2017 et qui ont décidé qu'ils ne pouvaient décidément pas voter pour lui, en effet, ils ont été attirés vers ce qui ressemble à un message et à un choix moral. C'est-à-dire que quand on ne sait pas pour qui voter, on ne vote plus en fonction d'une dimension politique, on choisit la dimension morale et dans ces cas-là, on va vers l'écologie qui est la question aujourd'hui qui se pose à tous.
Gilles Finkelstein.
Oui, pour prolonger ce que dit Natacha, je crois une semaine après le scrutin, si on essaie d'en tirer les principales leçons, je crois qu'il y a quatre mots. Un qui a été évoqué, c'est le mot de décomposition. Il y a eu une première lame en 2017 qui a fauché le Parti Socialiste. Il y a une deuxième lame, et je crois que c'est l'enseignement principal de ce scrutin en 2019, qui fauche les Républicains. Mais c'est une décomposition et donc ce n'est pas une recomposition. Et donc le deuxième mot, pour moi, c'est la fragmentation. 50% des Français, malgré tout, n'ont pas voté. Parmi ceux qui ont voté, 45% ont voté pour les deux listes qui sont arrivées en tête. C'est peu ou prou ce que l'on a depuis 20 ans. Mais toutes les autres listes sont beaucoup plus basses. Et vous avez, c'est la première fois, 20% de Français qui ont voté pour des listes qui n'ont aucun élu. Première fois. Donc fragmentation extrêmement forte. Troisième mot, c'est la polarisation. Polarisation politique entre...
C'est ce que disait Natacha.
C'est ce que disait. Mais derrière, il y a une polarisation sociale. Quand on regarde le vote, on voit que dans les classes aisées et moyennes supérieures, La République En Marche fait 30%, et que dans les classes modestes et pauvres, le Rassemblement National fait 30%, et on a aussi une polarisation géographique. Et enfin, dernier mot, et c'est pas le moins important, il y a une mutation très importante de La République En Marche. Elle ne se voit pas, apparemment, puisqu'ils font le même score. En revanche, il y a deux changements très importants. Le premier est un changement d'équilibre politique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la droitisation. Le deuxième changement qui se voit encore moins, c'est un changement démographique. Quand vous regardez le poids des plus de 65 ans dans l'électorat de La République En Marche, sur 100 électeurs d'Emmanuel Macron en 2017, vous en aviez 25 qui avaient plus de 65 ans. En 2019, il y en a 50. Et donc, c'est droitisation, vieillissement, c'est plus le même électorat.
Natacha ?
Je dirais que, pour être très schématique, nous avons là l'élection de juin 68 après l'éruption de mai 68. C'est-à-dire que c'est un vote de peur. Exactement comme il y a eu une vague de droite après mai 68, aux législatives de juin. De même, là, nous avons un électorat qui est un électorat possédant, qui est un électorat qui a eu peur du chaos et qui est allé vers celui qui s'est présenté comme le seul rempart face au chaos. Et en effet, la dimension sociologique je la trouve profondément inquiétante, c'est que nous avons une partition du pays et une lutte des classes violente qui est en train de s'installer, c'est-à-dire que le pays est coupé en deux. Et quand vous regardez la façon dont se sont passées, dont s'est passée la campagne, vous vous apercevez que pas une fois, les têtes de liste, les représentants des différents courants n'ont cherché à élargir leur électorat et à parler à l'électorat de l'autre. À aucun moment, La République En Marche n'a essayé de reconquérir ou d'essayer de faire comprendre aux électeurs qui pouvaient être tentés par le Rassemblement National qu'ils avaient entendu leur véritable demande. Et de même, bon, le Rassemblement National, lui, se construit en contre, on le sait. Mais cette lutte des classes, qui est en effet une fracture qui recoupe la fracture géographique, elle est en train de détruire l'idée même de communauté nationale. Et je pense que à terme, c'est cela qui est inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'avant, on avait un clivage gauche-droite qui était totalement factice, dans le sens où il permettait à des libéraux de droite et des libéraux de gauche d'alterner de façon virtuelle une différence de politique. En fait, c'était la même politique, mais qui s'inscrivait dans ce faux clivage. Ce faux clivage arrivant en bout de course, il ne servait plus à préserver le système tel qu'il était. Eh bien, on a suivi, c'est le vieux rêve d'Alain Juppé, de couper les deux bouts de l'omelette du corps politique, c'est-à-dire en gros on enlève les extrêmes pour lui, et on prend tous ceux qui sont d'accord pour perpétuer le système. Le macronisme, c'est ça. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on s'est transformé en quelque chose d'un paysage où il n'y a plus d'alternance possible. Puisque personne ne veut du Rassemblement National, pour l'instant. Pour l'instant, la colère de ceux qui veulent détruire le système n'est pas suffisamment forte. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où des gens se diront « mais enfin, il faut une alternance dans ce pays, où iront-ils ? » C'est ça qu'on est en train de voir. Quand il n'y a pas d'opposition, on joue un jeu profondément dangereux.
Gilles ? Oui, un point d'accord avec Natacha là-dessus. C'est-à-dire que le risque de la construction politique, c'est qu'on ait une démocratie sans alternance possible ou ayant pour seul alternant possible. Le Front National, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait maintenant 2 ans que c'est installé, mais ça s'installe plus profondément. Une divergence sur un point dans ce scrutin très particulier qui est le scrutin européen, représentation proportionnelle à un tour. Il est logique que chacun parle à ceux qui sont le plus près de ses électeurs, le plus potentiellement ses électeurs, et cherchent à les mobiliser. Enfin, la référence à 1968, d'une certaine manière, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron, qui voulait incarner le mouvement, incarne maintenant aussi, ou en tout cas l'ordre. L'autre référence, c'est peut-être aussi, pas seulement 68, mais 78. 78, c'est la construction, la première vraie construction de l'UDF, le parti de Valéry Giscard d'Estaing pour les plus jeunes. Et les analogies entre ce qu'est aujourd'hui La République En Marche et ce qu'était l'UDF de l'époque sont assez fortes. D'une certaine manière, Emmanuel Macron a reconstruit une grande UDF avec la différence qu'il n'y a plus à côté qu'un tout petit RPR et qu'il n'y a plus ni le Parti Socialiste ni le Parti Communiste.
Malgré tout ce que disait Natacha, est-ce que c'est pas finalement le constat que le vrai vainqueur, c'est Emmanuel Macron, a installé ce face-à-face avec Marine Le Pen. Il sait qu'il en sort gagnant. À vouloir structurer l'offre politique avec ces deux camps hermétiques l'un à l'autre, il sait que quoi qu'il arrive, à la prochaine présidentielle, s'il se retrouve face à Marine Le Pen, il l'emportera.
C'est un jeu profondément cynique, parce qu'en effet,
mais il est possible qu'il joue à ce jeu-là. Mais
on voit tous qu'il joue à ce jeu-là. L'enjeu posé comme enjeu qu'il fallait arriver avant le Front National, avant le Rassemblement National, qu'il fallait arriver en tête, c'était prendre le risque, en effet, d'être désavoué, ce qui est arrivé, mais c'est avant tout permettre d'induire systématiquement à chaque élection ce réflexe du barrage. Or, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, évidemment, il a été aidé par la France insoumise qui a totalement perdu la boussole.
Comment l'expliquer d'ailleurs ?
Moi, je l'explique par le fait, cette fameuse confrontation entre une ligne qui voulait aller au peuple, qui est la ligne qui a été choisie en 2017, et la ligne plus tournée vers la gauche, voire vers une forme de gauchisme, qui petit à petit, sur le terrain, s'est développée chez les militants. C'est-à-dire que ce sont en fait les militants les plus aguerris qui ont gagné, ceux qui ont le socle sur le terrain et qui ont évacuer ceux qui étaient arrivés avec la vague de 2017.
Gilles.
Oui. Est-ce que Emmanuel Macron est le véritable vainqueur de ce scrutin ? C'est possible, je l'évoquais. Il y a malgré tout une alerte pour lui, et je pense qu'il a intérêt à y regarder, et je dirais même une double alerte. Le premier, c'est qu'il y a du temps à droite. Les Républicains se sont affaissés, l'hypothèque Wauquiez peut être levée, et la droite a la possibilité de se reconstruire et de changer de leader. Ça, c'est un sujet. Et je pense que le deuxième, c'est qu'il y a du mouvement à gauche. L'émergence d'Europe Écologie Les Verts, je crois, est une vraie interrogation pour Emmanuel Macron, parce que c'est un terrain sur lequel il a peu de crédibilité, et c'est aussi autour, je
même
dis pas nécessairement d'Europe Écologie Les Verts, mais autour
à gauche
de,
pour le moment.
Mais ça, on verra. Ça, on verra.
Et là. Tout le problème sur les Verts, c'est la question de savoir comment ils se positionnent et s'ils vont continuer l'erreur qu'ils ont toujours faite, c'est-à-dire de s'associer in fine avec des libéraux sociaux qui finissent toujours par être plus libéraux que sociaux.
Avant de regarder le résultat des européennes en Europe, un mot, Gilles, est-ce qu'on sait s'il y a eu un effet Vincent Lambert sur le vote républicain? Les commentaires s'affrontent et on ne sait pas qui a raison entre les deux.
Personne ne peut répondre avec certitude. Il est probable que dans la chute dans les derniers jours des Républicains, une chute très importante, il y ait eu le vote utile qu'évoquait Natacha, où les Républicains ont été siphonnés des deux côtés. J'ai dit 30% des électeurs de François Fillon qui ont voté pour La République En Marche, 15% qui ont voté pour Marine Le Pen. Il y a eu peut-être le retour de Laurent Wauquiez au premier plan.
Oui, ça
ne jamais oublier que lorsque Laurent Wauquiez était testé, les Républicains étaient à 8%. Et puis, il y a eu les derniers jours de campagne de François-Xavier Bellamy autour de la fin de vie et autour de l'IVG.
Mais oui, il faut bien comprendre que la droite véritablement conservatrice, catholique, elle n'est pas majoritaire. C'est un corner idéologique et une grande part de l'électorat qui veut voter pour un parti libéral gentiment conservateur, n'a pas envie d'être associé à cette dimension franchement catholique. Et il suffisait de discuter avec des électeurs potentiels de François-Xavier Bellamy ces derniers jours pour comprendre qu'il y avait un problème.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
C'est le signe d'une Europe qui change, qui n'en peut plus d'être l'esclave des pouvoirs forts, de l'élite, de la finance et des multinationales. Notre travail va redoubler pour remettre au centre le droit du travail, le droit à la vie, le droit à la sécurité et aussi les valeurs. Une nouvelle Europe est née.
Matteo Salvini, le chef de la Ligue, qui a triomphé en Italie avec plus de 34% des voix. Il se félicitait du succès de son parti, mais aussi des autres partis populistes aux élections européennes, ceux de Marine Le Pen en France, de Nigel Farage en Grande-Bretagne. On a l'impression que c'est un élément qu'il faut aussi retenir du nouveau paysage européen, Gilles.
Bien sûr, quand on regarde, non plus au niveau national, mais au niveau européen, ce scrutin, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un déclin des deux grandes familles traditionnelles, le Parti Socialiste Européen et le Parti Populaire Européen, les sociodémocrates et les conservateurs, qui perdent l'un et l'autre aux alentours de 40 sièges. Mais c'est un élément difficile à intégrer pour nous, c'est que les nains ici restent malgré tout des géants là-bas. C'est-à-dire que ces deux grandes familles politiques restent les deux forces dominantes, et j'ai regardé de près comment on peut...
Les nains, c'est-à-dire vous parlez du Parti Socialiste et des Républicains?
Oui, qui sont des nains aujourd'hui en France sont encore des géants au niveau européen. Et vous n'avez pas aujourd'hui de majorité possible sans qu'il y ait à la fois les sociodémocrates et les conservateurs. Il faut qu'il y en ait d'autres, mais il faut nécessairement qu'il y ait ces deux-là. Bon, donc ça c'est le premier élément, déclin, mais il reste puissant. Et il y a eu une progression, pour le coup, des trois autres forces, des libéraux, des écologistes et de l'extrême droite, ou plutôt des extrêmes droites.
Natacha.
Bien sûr, des extrêmes droites, en effet, parce que de toute façon, et c'est bien finalement ce qui préserve ce Parlement européen et ce qui préserve d'ailleurs l'ensemble des pays européens d'une puissance des partis dits populistes, c'est qu'ils ont des positions radicalement divergentes. Et qu'entre un Viktor Orban et un Matteo Salvini, il y a des différences conséquences majeures.
Et notamment sur l'immigration.
Voilà, et il serait plus intéressant d'ailleurs d'aller analyser la position des pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, sur la question du rapport au libéralisme économique, sur la question du rapport au libéralisme sociétal, pour comprendre que Viktor Orban représente quelque chose de très spécifique que nous avons beaucoup de mal à analyser en Europe de l'Ouest. Il faut discuter avec des gens qui se disent de gauche dans des pays de l'Est, dans des pays d'Europe centrale, pour comprendre que Viktor Orban ne les traumatise pas tant que ça et qu'ils ont l'impression. Donc ces fractures-là, elles se voient dans les différents groupes qui se constituent au Parlement. Simplement, il va y avoir des questions d'alliance, c'est-à-dire ce qui est majeur, c'est de savoir avec qui s'allie le groupe des libéraux, avec qui s'allie les Verts. Et là aussi, la position des Verts à l'échelle européenne, par rapport à la position des Verts à l'échelle française, c'est quelque chose de très intéressant à suivre.
Gilles.
Oui, sur l'extrême droite ou les extrêmes droites, ça ne préserve pas la majorité au Parlement européen, au sens où, même unis, l'ensemble de ces forces reste extrêmement minoritaire, comme on le disait avant l'élection. Ils ont des divergences sur l'immigration, ils ont des divergences sur les questions économiques, ils ont des divergences sur les questions géopolitiques, et notamment dans le rapport à la Russie, et donc l'alliance entre eux sera difficile. L'alliance entre les autres, c'est ce qui va être discuté, et une des raisons pour lesquelles, pour les Français, par rapport à ce qu'est devenu notre culture politique, ce qui est en train de se passer au niveau européen est déroutant. Il y a la raison que j'évoquais, les nains ici sont des géants là-bas. L'autre raison, c'est que rien ne va pouvoir être imposé, que tout va devoir être négocié.
Mais les socialistes, par exemple, les socialistes européens, les sociodémocrates européens, vont s'allier avec l'ALDE, les démocrates libéraux, le groupe qu'a rejoint Emmanuel Macron.
Il y avait un mot allemand qui avait émergé, ce qui est assez rare chez nous, qui était le Spitzenkandidat, le chef de file pour la présidence de la Commission. Il y a un nouveau mot qui est Coalition Verstrag.
Oula.
Ça veut dire quoi?
J'aurais dû faire allemand en première langue au lycée.
C'est un accord de coalition. Et donc, c'est pas une alliance, c'est trouver un accord programmatique pour faire fonctionner à la fois la Commission et pour faire fonctionner le Parlement européen. C'est ça qui va être discuté et c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué qu'auparavant parce que le nombre d'équilibres qu'il faut respecter est absolument vertigineux. Il y a l'équilibre politique, les quatre forces qu'on évoquait, il y a l'équilibre géographique, Est, Ouest, Nord, Sud, il y a l'équilibre démographique entre les petits et les grands, l'équilibre entre les hommes et les femmes sur les quatre postes à attribuer, et évidemment l'équilibre entre le Parlement européen et le Conseil, on en a pour plusieurs mois.
D'une phrase, Natacha, avant d'ouvrir le débat.
La conclusion, c'est que tout ce que les candidats à l'élection européenne ont mis en avant comme grand projet pour transformer l'Europe ne se fera pas.
À suivre dans le grand face-à-face, il va y avoir du sport, le débat avec la philosophe Geneviève Fraisse.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
Sport et féminisme en débat jusqu'à 13h. C'était samedi dernier, le tournoi de Roland-Garros allait commencer. Et Gilles, vous nous parliez de votre passion pour le tennis, de votre féminisme et de votre combat.
Le tennis est un des sports dans lequel la cause des femmes, la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes a été prise le plus tôt. Un sport dans lequel l'égalité des gains a été, notamment dans les tournois du Grand Chelem, décidée depuis de très nombreuses années, un peu plus tard à Roland-Garros, mais il y a déjà maintenant plus de 10 ans. Là, on a essayé de porter un combat qui est un combat purement symbolique, mais qui est que le moment ultime de fin des tournois du Grand Chelem, et en l'occurrence de Roland-Garros, eh bien, une année sur deux, ce soit la finale femme et une année sur deux, la finale homme.
Et voici ce que vous répondez, Natacha.
Cela pose tout simplement la question de l'égalité entre les genres au sein du sport, qui par essence est une discipline où justement il y a des différences physiques entre les femmes et les hommes qui sont indéniables.
La différence des corps et des sexes s'effacera-t-elle un jour dans le sport? Comment penser l'égalité quand on est face à la question empirique des corps? Des questions qui dépassent largement le cadre des pratiques sportives et qu'on retrouve par exemple lorsqu'on réfléchit au recrutement dans l'armée ou chez les pompiers ou tout simplement quand on songe à ce qui se passe dans les cours d'EPS. Notre invitée est philosophe, spécialiste de la pensée féministe. Elle s'est trouvée face au sport comme face à l'énigme par excellence. C'est son expression. Bonjour Geneviève Fraisse.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez réfléchi sur le sexe et le genre dans le sport, vous avez participé à un documentaire passionnant, Regard sur le sport. Le sport serait-il le seul lieu, excepté la maternité, qui nous renverrait toujours à la différence homme-femme? C'est la question que vous posiez déjà il y a quelques années. Est-ce que vous avez trouvé la réponse?
Non, et c'est précisément pour ça que je me suis intéressée à cette question il y a longtemps, et notamment quand j'étais au Parlement européen, puisque c'est d'actualité,
oui.
Dans un moment d'exception de ma vie, où j'étais députée européenne et où j'ai fait un rapport d'initiative sur femmes et sport. Il faut savoir, puisque vous parliez Europe, qu'il y a une marge de manœuvre pour chaque député qui est de prendre des initiatives pour faire des rapports. Moi, j'avais choisi Femmes et Sport, précisément parce que par rapport aux questions de parité, etc., où on voyait l'égalité avancée, là, aujourd'hui, on est dans... Je noterai deux choses. Premièrement, c'est pas le mot égalité qui est employé, mais la plupart du temps, le mot équité. Ça veut pas dire la même chose.
Oui.
Et puis, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'en l'espace de 20 ans, le changement est spectaculaire.
Dans quel sens ?
Bah, dans la mesure où c'est devenu... Alors, il y a 20 ans, il fallait soutenir Nicolas Barre, footballeuse, qui voulait créer un club au Plessis Robinson et ça lui était refusé. 20 ans plus tard, on parle de la coupe...
Du monde féminin de football en France et avec donc, une équipe ans, qui a ses chances pour l'emporter.
Je pense que c'est le mot spectaculaire, c'est pas que moi qui l'emploie. Donc il faut aussi comprendre, peut-être c'est compliqué de comprendre pourquoi c'est spectaculaire, mais en tout cas c'est assez c'est un côté très très réjouissant.
Très réjouissant, on va en parler évidemment. Natacha. Natacha.
Il me semble que la question, évidemment, qui fait problème, c'est la question de l'incarnation et celle du corps, vous le disiez, simplement, c'est la question de notre incapacité contemporaine à penser cette incarnation. Dans le sens où nous progressons dans l'image que peut avoir le sport féminin. Ça, c'est en effet, il me semble, une évolution du féminisme et l'abandon des clichés de genre qui voulaient que la force physique soit réservée aux hommes, qu'ils en fassent démonstration, alors que les femmes étaient reléguées à d'autres choses qui étaient beaucoup plus esthétiques, douces, etc. Heureusement, on se débarrasse de ça. En revanche, nous avons un problème qui est que nous avons tendance aujourd'hui à ne penser la liberté humaine qu'en fonction de la volonté individuelle et des droits individuels, de la conquête des droits individuels. Or, cela a tendance à nous faire nous émanciper de la nature. Mais la nature se rappelle à nous dans le corps. Et ce corps est différent dans sa puissance entre les hommes et les femmes. Et nous n'arrivons pas, finalement, à articuler les deux, c'est-à-dire la liberté humaine, les droits individuels et la différence basique de la nature que nous n'avons pas choisie.
Alors, Geneviève Fraisse.
Alors certes. Certes, et c'est bien pour ça que j'appelle ça une énigme, parce que comment faire de l'égalité avec la différence des corps, c'est une vraie question théorique et fondamentale. Par ailleurs, ce qui est posé aussi aujourd'hui comme question, et c'est là où les choses vont très très vite, vous l'avez vu à travers cette histoire de testostérone pour l'athlète sud-africaine, je surligne.
Caster Semenya.
Oui, merci, je surligne, c'est-à-dire que c'est pas une athlète occidentale ou américaine.
Il faut juste dire à nos auditeurs que c'est parce qu'elles produisent naturellement plus de testostérone que la moyenne des femmes, que deux athlètes, Caster Semenya et Dutty Chand, ont été malmenées par les autorités sportives, voire accusées d'être des hommes et du coup disqualifiées.
Parce qu'on fait des tests de féminité. Alors je me demande si on fait des tests de masculinité pour les hommes, mais évidemment les hommes en manque de testostérone, on va pas les trouver dans les compétitions sportives. Alors là, dans cette différence des corps, ça devient très concret. C'est-à-dire si cette femme a trop de testostérone, est-ce qu'elle n'est plus une femme ? Bah la réponse, c'est je suis une femme. Et elle a raison de le dire. Donc à ce moment-là, la question de la frontière se pose. Et c'est, je crois, la métaphore du problème de l'égalité aujourd'hui. C'est pas seulement une réalité douloureuse et difficile, c'est aussi une métaphore. C'est-à-dire, est-ce qu'on franchit une frontière? Et comment on la franchit? Est-ce qu'on met les sexes ensemble ou pas? Par exemple.
Ça, c'est une vraie question.
Prenons l'école. Sortons des hautes sphères et prenons l'école. Moi, je me souviens très bien avoir vu dans un collège proche, le marathon en sixième, il est mixte, ce qui permet aux mauvais garçons de se retrouver au milieu et de ne pas se sentir mal. Et puis en cinquième, ah non, les sexes étaient séparés. Donc là, c'est vraiment, on est au cœur du sujet.
Et quand vous disiez qu'il fallait applaudir à la Coupe du Monde féminine de foot en France, c'est vrai, mais en l'occurrence, les femmes jouent de leur côté, les mecs de l'autre.
Oui, mais alors c'est ce que disait Natacha Polony, mais sauf que moi je suis en train de dire que cette fameuse frontière dites de nature. Un, c'est plus compliqué sur le plan physiologique, puisqu'on a la question de la testostérone. Deux, c'est plus compliqué aussi dans l'éducation, puisqu'il y a des moments où on peut être dans la mixité. Imaginons, par exemple, il y a des sports mixtes, hein, je sais pas, patin à glace, et puis il y a des sports séparés, et puis il y a des sports où on a dit dames et messieurs, par exemple, pour ce qui était du tennis depuis longtemps, oui. Et là on dit féminin et neutre, bah, peut-être qu'il faut dire coupe du monde masculine maintenant. Enfin, bon, ça c'est... Donc on a quand même des problèmes à la fois naturels et puis sociaux et politiques.
Gilles, oui, vous disiez tout à l'heure le changement s'agissant de la Coupe du football est spectaculaire.
Non, des sports en général.
Enfin, c'est vrai, des sports en général, c'est vrai particulièrement du football dans la mesure où non seulement la Coupe du Monde se déroule en France va avoir de l'écho, mais la médiatisation n'a strictement rien à voir avec ce qu'était le football féminin il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Tous les matchs vont être transmis sur les grandes chaînes de télévision. Le combat a quand même été très lent et on est quand même parti de très très loin. Je retrouvais en regardant l'émission... Il y a un siècle, Coubertin qui disait les JO devraient être réservés aux hommes, les femmes sont là pour couronner les vainqueurs. Mm-hmm. On est parti de
Coubertin.
Coubertin.
Mais Coubertin, on l'applaudit, c'est le type qui a fait la citation que tout le monde admire.
Mais le jeu de l'anachronisme, le jeu des rats, c'est dans l'Antiquité. Accueillir les femmes.
Alors la question, c'est quels sont les combats de demain ? Parce que quand on regarde concrètement les sujets sur les différents sports. Dans le rapport entre les hommes et les femmes, on voit des choses très différentes. C'est-à-dire qu'il y a, pour certains, une revendication d'alignement des règles et des pratiques, dont, par exemple, que le tennis soit en 5-7 gagnant.
Parlez bien dans le micro.
En 5-7 gagnant dans les tournois du Grand Chelem pour les femmes comme pour les hommes. On a, à l'inverse, des demandes d'adaptation des règles. Le manager de Chelsea, de l'équipe féminine de Chelsea de foot, a demandé à ce que les buts soient réduits parce que la taille des gardiennes était différente de celle des gardiens. Et puis, il y a la question, troisième option possible, celle du mélange. Mais là aussi, avec des choses très différentes. Vous avez eu des grandes championnes, Serena Williams au tennis, Lindsey Vonn au ski, qui demandaient à concourir avec les hommes contre les hommes. Et puis, il y a la mixité qui est quelque chose de différent. Donc, c'est quoi la voie, les combats de l'avenir
pour c'est pour ça aussi que cette question m'a toujours passionnée, parce qu'on est au cœur des difficultés. C'est par rapport à la parité ou d'autres choses où on peut simplement faire de l'égalité. Enfin, simplement, je dis ça avec des guillemets multiples. Là, on est au cœur. Comment on fait ? C'est pour ça qu'il faut retourner un vers l'école, deux vers les villes. Comment on fait pour permettre, par exemple, le sport féminin dans les villes ? Tout le monde sait, ou même dans les cours de récréation. Tout le monde sait que les garçons prennent la place ou que les salles sont réservées aux garçons, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je pense que les professeurs de PS sont des gens tout à fait extraordinaires dans l'enseignement, parce qu'ils sont au cœur
du sujet. Oui, vous dites que ce sont des philosophes. Des savants de la différence des sexes.
Y compris de l'éducation sexuelle, parce que c'est eux qui vont être confrontés à l'adolescence, à tous les changements hormonaux des garçons comme des filles. Donc c'est tout à fait passionnant. Mais là, la question que vous avez posée, vous avez la réponse dans votre question. C'est-à-dire que précisément, on va voir un coup la mixité, un coup des filles qui vont demander, etc. Alors moi, je voudrais revenir par rapport donc pour ce qui est des villes et de l'école, on voit qu'il y a des temporalités de mixité et en même temps des séparations qui perdurent. Pour ce qui est disons des sports professionnels de haut niveau, ce qu'on peut remarquer, deux choses. D'une part que c'est vrai qu'on est en train, enfin il y a eu une volonté politique très clairement, par exemple de Najat Vallaud-Belkacem a fait un travail absolument étonnant de volonté politique pour forcer les fédérations, forcer un certain nombre d'institutions à faire passer le sport féminin. Ça, c'est une chose. Donc, ça vient d'en haut. Alors, pourquoi ça viendrait d'en haut ? Moi, je vois deux raisons qui sont liées au sport et non pas liées à l'égalité des sexes. C'est, d'une part, le fait que... c'est très éthique, le sport féminin, par rapport à un certain nombre de difficultés. Bah, pour le moment.
Les femmes sont des hommes comme les autres. Il n'y a pas la raison qu'elles...
Éthique par rapport à ce qui
se... Non, par rapport à... Pas.
Non, je parle pas du dopage. Je parlais aussi de l'argent, par exemple, etc. C'est-à-dire, vu les scandales qu'il y a du côté des hommes, les femmes arrivent dans une espèce de moment de propreté, de pureté, qui peut tout à fait être intéressant sur le plan de la politique du sport. Un. Deux, la question économique. C'est-à-dire, pour le moment, on a entendu la capitaine des Bleus, il y a quelques jours sur France Inter, dire qu'on était...
Amandine Henry.
Merci, on était à 100% de différence de salaire. Donc, les questions économiques, qu'est-ce que, entre guillemets, le capitalisme joue dans tout cela ? Moi, c'est ça, quelques questions qui m'intéressent quand même.
Sauf que Natacha. C'est une question intéressante, mais on peut la résoudre, me semble-t-il, assez facilement en se disant que c'est exactement la même chose que pour le pouvoir politique, quand on s'est imaginé pendant des années que les femmes allaient changer la façon d'exercer le pouvoir.
Pas moi,
là,
j'ai jamais pensé.
Là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une question purement économique. Les femmes rapportent moins pour l'instant. Le jour où il y aura un engouement pour le sport féminin, l'argent s'y mettra, les règles capitalistes s'y mettront, et ce sera pas moins corrompu et pas moins...
Mais là, je ne faisais qu'une analyse hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant.
Bien sûr, mais juste pour revenir sur un point, sur le, vous parliez de l'école. Le fait qu'il y ait une frontière entre la 6e et la 5e, ou parfois c'est entre la 5e et la 4e, mais c'est logique, puisque c'est le moment où justement la différence des sexes se crée, puisque les hormones jouent. Or, cette question des hormones, elle est importante. Vous le disiez sur l'athlète sud-africaine, la question de savoir si la testostérone fait l'homme ou la femme. Il y a eu, paradoxalement, quand je disais que ça cognait avec les droits individuels, il y a une histoire qui est très intéressante sur la question du sport. Le championnat de cyclisme féminin sur piste l'an dernier à Los Angeles a été remporté, puisque maintenant l'Union cycliste internationale l'autorise, par une transsexuelle non opérée, c'est-à-dire en fait un homme qui se vit comme femme et qui a gagné face à des femmes. La numéro 3 sur le podium a tweeté qu'elle trouvait que c'était pas juste. Hein, ouais. Et quelqu'un a tweeté, je vous rappelle que c'était un championnat féminin. Elles se sont fait immédiatement traiter de transphobes, etc. Mais de fait, on est là face à un paradoxe absolu.
Absolu. On a parlé d'énigme tout à l'heure, on passe de l'énigme au paradoxe, je suis d'accord. C'est-à-dire l'énigme, elle est philosophique, et le paradoxe, il est dans le réel.
Oui, mais c'est-à-dire des femmes se font embêter parce qu'elles ont trop de testostérone, et à côté de ça, quelqu'un qui... du point de vue hormonal, est un homme, peut gagner un championnat féminin.
Mais en même temps, on va pas arriver en sanctionnant ceci ou cela. On est face à un déploiement de difficultés auquel il est donc drôlement plus intéressant de faire face que de savoir, par exemple, dans le milieu politique, ce qui s'est passé avec l'arrivée des femmes. Rappelez-vous, il y a 20 ans, pendant qu'il était difficile de créer un club de foot, on se posait la question de savoir si on allait pouvoir dire la ministre. Ça a quand même occupé quelques mois de médiatisation. C'est quand même... Donc là, il se passe des choses aussi. L'histoire bouge et nous sommes face à cette histoire.
Gilles Finkelstein.
Oui, vous avez rappelé tout à l'heure l'appel que j'avais lancé. Pas seul d'ailleurs, il y avait aussi Najat Vallaud-Belkacem pour que la finale de Roland-Garros se fasse en alternance le dimanche pour les hommes et pour les femmes.
Mais la politique n'a aucun pouvoir sur ces sports qui sont dominés par des fédérations.
Attendez, pourquoi ça ? Parce que le tennis est précurseur sur la question de l'égalité salariale. C'est le premier sport dans lequel il y a eu, et depuis longtemps, c'était un combat qui a été mené par une grande championne américaine qui s'appelle Billie Jean King au début des années 70, même... rémunération pour les hommes et pour les femmes.
McEnroe, je crois, fin des années 90, a dit le terrain, le court, on va voir.
Mais bien sûr, bien sûr.
Le sexisme était puissant.
Mais bien sûr, mais ça a été obtenu.
Donc, mais dans les tournois du Grand Chelem, et ça n'inclut pas les revenus publicitaires, Gilles.
Ah, c'est évidemment que ça n'inclut pas les revenus publicitaires.
Donc l'inégalité est là.
Non, mais sur ce qui est gagné sur le terrain, c'est la même chose. Le vainqueur homme et le vainqueur femme dans les tournois du Grand Chelem sera identique. Le deuxième point, ça va faire écho à ce que disait Geneviève Frère, c'est que la médiatisation de l'événement le dimanche a à la fois une portée pratique et une portée symbolique. La portée pratique, c'est que la pratique du sport féminin sera plus importante si quand l'événement est médiatisé le dimanche. Il y a un effet de chaîne. Et la dimension symbolique, c'est...
Mais pourquoi ça ?
Parce que ça a toujours été comme ça. Lorsque
la plupart des grands matchs de foot sont joués le samedi, en l'occurrence.
Parce que les matchs, le jour des matchs de foot, c'est le samedi. Le jour du tennis, c'est le dimanche. Et donc, le fait que cette place centrale soit donnée aux femmes, ça a à la fois cette dimension pratique sur le développement du sport et une dimension symbolique sur l'égalité.
Il est quelque chose de passionnant, Geneviève Fraisse, parce que la question qui se pose pour le sport, vous dites qu'elle a des répercussions lorsqu'on pense à l'armée, par exemple, lorsqu'on pense aux pompiers, comment les recruter ? Est-ce qu'il faut les mêmes épreuves ? Est-ce qu'il faut des épreuves équivalentes ? Est-ce qu'il faut des équivalences d'épreuves ? Des épreuves spécifiques ? Bref, ça pose des tas de questions, pour le coup, qui concernent d'autres secteurs de la société.
Bah, tous ceux qui font, effectivement, rapport à la différence des corps. Et moi, j'avais été frappée de ça l'année où j'ai été déléguée interministérielle et où mon correspondant interministériel du ministère des Armées, avec qui j'ai beaucoup discuté, était en face, dans la même rue, c'était qu'ils avaient des épreuves différentes. Alors, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais ce que je remarque, c'est probable qu'il y ait encore des épreuves différentes pour tous ces lieux professionnels, sauf qu'après, Ben, je voyais ça encore tout à l'heure en bas de ma rue. Les policiers qui passaient pour chasser les migrants sous leur tente, c'était une équipe mixte. Donc cette équipe mixte, c'est femmes et hommes. Donc une fois que les concours sont passés, on les mélange. Là, il n'est pas question, apparemment, de mélange. Donc cette question, pour moi, la mixité, c'est le mélange. Et donc il y a des moments, encore une fois, c'est la temporalité. On peut séparer à l'école à certains moments et en même temps se retrouver ensemble.
C'est-à-dire que comme féministe, votre combat avant l'égalité, c'est la mixité.
Non, combat, je sais pas. Moi, c'est des questions qui se posent, c'est-à-dire... moi, j'appelle ça le est-ce qu'on mélange ou est-ce qu'on mélange pas les sexes, d'une part. Et d'autre part, si on les mélange pas, il y a des choses qu'on voit et qui sortent, notamment, par exemple, la question de l'émancipation. On n'en a pas encore parlé. Mais je veux dire, la multiplication du sport, dans les écoles, y compris dans les quartiers, y compris dans des villes où, même si c'est difficile, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux lieux et à l'accès à des lieux, néanmoins, c'est des lieux d'émancipation. Et moi, j'avais défendu cela parce que on a toujours vu l'émancipation du côté des maths et des lettres, oui. Mais on peut voir aussi l'émancipation, et ça a été important. Je me souviens, ça c'était aussi la position de Marie-Georges Buffet quand elle était ministre des sports. C'était que c'était un lieu d'émancipation. Et ça, alors vous voyez, à propos vous, je dérive, vous voulez savoir si la question est celle de la mixité, moi je vous dis c'est celle de l'émancipation. Et alors de ce point de vue-là, on peut relier ça au sport de haut niveau, puisque ce soit fait des modèles. Ça fait, ah bah si elle y est arrivée, je peux y arriver.
Oui.
Tandis que s'il n'y a pas d'image, c'est beaucoup plus difficile. On peut tout à fait aimer le sport, etc. Mais en même temps, l'image sert effectivement
aux filles qui se construisent.
Sur la question de l'émancipation, je vous rejoins totalement. Je pense qu'on a pendant trop longtemps, dans certaines banlieues, raconté aux garçons qu'ils allaient s'en sortir par le sport et la musique. Et on les confinait à ça. Et il vaudrait mieux leur dire que l'émancipation pour eux, ça passe par la réussite en mathématiques, en français, etc. Et en revanche, les filles, qui du coup ont des meilleurs résultats scolaires que les garçons, elles, l'émancipation par le sport, donc par le corps, par l'affirmation de son corps, est très importante. Mais après, pour la question de savoir si il faut des épreuves différentes pour les pompiers, pour l'armée, etc., je pense que la question à se poser est celle de la finalité. Quel est le but de recruter un individu pour l'armée, pour les pompiers, pour la police? Donc il y a certaines tâches qui vont être des tâches qui nécessitent une puissance physique, et il y a d'autres utilités, d'autres besoins, des besoins d'efficacité intellectuelle, cognitive, etc. Et donc je pense qu'il faut penser le recrutement en fonction de ces différentes tâches. Quand on a besoin de force physique plus de disponibilité cognitive, un certain type de recrutement s'impose, mais ça n'interdit pas qu'on puisse recruter des gens qui auront moins de force physique.
Là, vous prenez la pente de la complémentarité des sexes, et je ne vais pas arriver à vous suivre.
C'est pas la complémentarité des sexes, c'est la question de l'égalité. C'est pas parce que les femmes ont moins de muscles qu'elles ne sont pas utiles.
Ce que j'appelle la pente de la complémentarité. Je ne dis pas que vous êtes dans la complémentarité dans votre réflexion ou dans votre analyse, mais c'est la pente de la complémentarité des sexes, dont je me méfie comme de la peste.
Moi aussi, mais je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas le penser en termes de complémentarité, mais en termes de besoins précis et de réponse d'un individu à ses besoins, individu quel qu'il soit.
Gilles. Oh pardon, Geneviève. Non, mais l'émission touche à son terme, mais vous aurez le dernier mot, Geneviève.
On repasse à la question de l'individu. L'individu et le collectif, ça marche ensemble.
Bien sûr, ça marche ensemble, mais justement, chaque individu peut apporter quelque chose de différent, d'où l'intérêt d'avoir des épreuves différentes et de sélectionner de façon à ne pas discriminer les femmes qui ont moins de force physique. C'est ce que je veux dire.
Non, mais on peut la suivre.
Vous préférez regarder les hommes ou les femmes jouer au tennis ?
Alors, j'ai été traumatisée dans mon enfance par l'émission du dimanche soir, Sport Dimanche ou je sais pas quoi, et c'est un trauma qui fait que je ne regarde pas le sport.
À la télévision.
Parce que c'était une seule chaîne, et c'était les hommes de la tablée regardaient cette émission, et vraiment, c'était dur.
Donc pas sport à la télévision, en revanche vous pratiquez le sport, et c'est quand même l'essentiel.
Certes, beaucoup.
Merci infiniment Geneviève Fraisse d'avoir été l'invité du Grand Face à Face ce samedi. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Alicia Vulot, à la technique Pierre-Yves Derolin. Et quant à moi, je vous dis à demain midi pour Questions Politiques. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin, comment les coopératives agricoles sont devenues des sociétés opaques.